Je vous demanderai de vous tourner avec moi dans le livre des Rois, au chapitre 19, où nous allons voir un épisode bien connu de la vie du prophète Élie. Encore une fois, nous avons vu le Seigneur agir puissamment avec le prophète Élie. Vous vous souvenez de la façon miraculeuse dont il avait pu confronter le roi en lui disant qu'il allait prier qu'il n'y aurait plus de pluie pendant 3 ans et demi. Il s'était ensuite parti se cacher. Le Seigneur avait pourvu pour lui de façon miraculeuse avec les corbeaux qui lui amenaient du pain, le ruisseau qui lui donnait de la boisson fraîche, et puis à travers la veuve à Sarepta, Dieu avait permis que, à partir d'un pot de farine vide, pratiquement vide, et un pot d'huile pratiquement vide aussi, cette veuve puisse nourrir sa famille et le prophète. Et puis on a vu comment il était parti confronter les prophètes de Baal sur le mont Carmel et comment il avait remporté une victoire spectaculaire. Le feu était tombé sur l'holocauste d'Élie et toutes les invocations, les incantations, les scarifications, les danses, le bruit des prophètes de Baal n'avaient pas pu le réveiller, parce que Baal est un faux dieu qui n'a pas la puissance de Dieu. Et là, le peuple avait été touché par la puissance du Dieu d'Israël. Et tout le message d'Élie, toute sa vie, c'était de montrer que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Toute notre vie, ça doit être de montrer que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Il y a plein de faux dieux dans notre monde. La puissance, l'amour, le sexe, l'argent, l'éducation. Toutes ces choses peuvent être des idoles dans nos vies. Et on sait qu'elles ne satisfont pas parce qu'elles ne sont pas le véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Le peuple avait répondu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis la pluie était revenue sur la terre d'Israël. C'était un comble parce qu'en fait, Baal, c'était un dieu de la fertilité, un dieu du climat, de la pluie, mais lui ne pouvait pas faire venir la pluie. Et on voit le miracle de la pluie, un tout petit nuage qui s'élève de la mer et qui grandit. Et la pluie qui tombe enfin abondamment sur Israël. Lisons verset 1 du chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel, donc Achab c'était le roi d'Israël, sa femme Jézabel, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure je ne fais de ta vie de ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et y laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'en est trop, maintenant Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. En voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, un autre nom pour le mont Sinaï. Faisons une pause ici et on voit que la reine Jézabel, cette Sidonienne, cette païenne, qui avait introduit de façon très forte le culte de Baal ou des Baals, avait inspiré 450 prophètes qui ont été supprimés par Élie après la victoire sur le mont Carmel. Et on peut penser peut-être que Achab, quand il annonce à sa femme tout ce qu'avait fait Élie, peut-être dans son cœur il avait l'espoir que sa femme allait dire: mais c'est vrai, c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Parce qu'il était comme beaucoup de personnes, il avait grandi en entendant parler du vrai Dieu d'Israël. Et puis il avait été influencé par le culte des Baals. Et il était comme beaucoup de monde, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils peuvent croire en Dieu, mais ils se laissent aussi influencer par les idoles du monde. Et au lieu de voir l'Église influencer le monde, on voit trop souvent le monde influencer l'Église. Des choses en matière d'éthique, de moralité, sont importées dans l'Église. On met en doute la véracité absolue de la parole de Dieu. On se dit qu'on aimerait bien, comme cette personne rencontrée au stand, pouvoir rassembler toutes les religions. Mais Jésus est très intolérant. On critique souvent les chrétiens pour être intolérants. Mais c'est pas moi qui suis intolérant. C'est Jésus qui a dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul. Nul, ça veut dire zéro. Personne. Nobody. Nietzschevo. Je ne sais pas combien de langues il faut le dire. Nul ne vient au Père que par l'intermédiaire de Jésus, que par moi. Soit c'est faux, et alors à ce moment-là, on peut partir se promener à la pêche aujourd'hui, on arrête tout. Soit c'est vrai, et ça a des conséquences. Mais beaucoup de chrétiens disent: oh, mais les pauvres bouddhistes, les pauvres ceci, les pauvres cela, eux aussi, ils ont un Dieu, il ne faut pas être aussi catégorique. Ce n'est pas une question d'être catégorique ou pas, d'être étroit d'esprit, c'est le chemin qui est étroit. Le chemin pour aller à Dieu, il ne passe que par Jésus. On vit dans un monde où la tolérance est une vertu cardinale. Être intolérant, c'est pire qu'être un meurtrier. Oh, ils sont très intolérants. On m'a traité, je vous l'ai dit, d'intégristes. Ce sont des intégristes. Intègre, ça veut dire entier. Soit on prend toute la parole entièrement, soit on commence à dire: ben oui, ça c'est bien, il faut aimer son prochain, mais il ne faut pas quand même être trop catégorique. Les autres, ils sont gentils aussi. Hein. Moi, j'en connais qui ne sont pas chrétiens, qui valent bien mieux que les chrétiens. Ah, ma petite dame, moi je vous le dis. Hein. Et c'est vrai, malheureusement, et c'est notre honte en tant que chrétiens de ne pas être des modèles de petit Christ. C'est ce que veut dire le mot chrétien. Et Achab, il espérait peut-être que devant cette démonstration de la puissance du Dieu d'Israël, Jézabel allait être influencée. Elle est influencée, mais sa colère est aggravée contre Élie, contre le vrai Dieu. Et ça, peut-être vous l'avez vécu, il y a des choses qui se passent dans votre vie, vous les partagez avec votre famille, avec vos amis, vous pensez que ça va les impressionner, et la réaction est tout à fait l'inverse. Ils vous rejettent, ils rejettent encore plus farouchement Dieu, et vous êtes déçus, vous êtes déprimés. Jézabel envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ce qu'ils veulent. Tu vas voir, si ta vie, tu vas être comme ces prophètes que tu as fait assassiner. Élie voit cela, lui qui n'avait pas eu peur contre tous ces prophètes, 800 prophètes, qui avaient appelé la puissance de Dieu sur l'Holocauste, après avoir arrosé, complètement noyé cet Holocauste, lui qui avait une foi super, voilà que maintenant il se laisse aller à la peur. Il y avait une émission célèbre aux États-Unis de sport et leur devise, c'était l'excitation de la victoire et l'agonie de la défaite. Le sport nous captive tellement parce que quelqu'un peut être au sommet de la victoire, gagner, et puis le lendemain, il est anéanti, il perd contre... Et cette incertitude, on parle aussi de la glorieuse incertitude du sport, de la vie. Là, Élie qui a été au sommet, sur la montagne, maintenant, il est paniqué. Lui qui résistait à 850 prophètes, maintenant une seule petite femme inspirée par des idoles le fait fuir, le met en panique. Et c'est en cela que l'on voit, encore une fois, ce que disait Jacques 5, 17, je crois. Juste après que le Seigneur nous ait, par la parole de Jacques et l'Esprit Saint, nous ait encouragé à prier, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et surtout, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La guérison spirituelle est plus importante encore que la guérison physique. Confessez, verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et là, il nous rappelle cet exemple célèbre. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Élie était un homme de même nature que nous. Et nous aussi, on peut être excité par des victoires spirituelles ou des victoires dans notre vie, des succès. Et 2 minutes plus tard, le lendemain, quelque chose ne va pas selon nos plans et nous sommes prêts à nous suicider, à demander la mort, si du moins nous ne faisons pas. Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Et donc, cette histoire d'Élie, elle devrait tous nous toucher. Toute la parole doit nous toucher. Elle a été écrite pour notre instruction, pour nous reprendre, pour nous encourager, pour nous préparer à toute œuvre bonne, nous dit Paul dans 2 Timothée 3,16. Ils sont dans la dépression. Est-ce que certains d'entre nous ont déjà eu des problèmes avec la dépression? Je ne vais pas vous demander de lever la main. Pas qu'il y ait de honte à être déprimé, mais ce n'est pas une expérience dont on veut raviver le souvenir, parce que c'est vraiment quelque chose de très désagréable d'être dans la dépression. C'est quelque chose de d'émotionnel qui se traduit par physiquement par des symptômes très désagréables. Et le problème, c'est que elle est très dure à vivre pour l'entourage, la dépression. On vit dans un monde où on nous soigne à coups de produits médicamenteux, de produits chimiques. Si vous êtes vraiment dans une dépression grave, vous allez vous retrouver à Sainte-Marie ou à Saint-François, c'est toujours des établissements d'origine catholique, chrétien. Et là, on va vous bourrer de drogue. Vous n'allez plus savoir ce qui vous arrive, vous allez dormir parce que vous ne pouvez pas vous lever. Et au bout de 2 semaines, on va vous dire, bon, mais maintenant il faut être courageux, il faut être grand, et on vous remet, on vous fait sortir, et vous êtes livré à vous-même. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, quelques temps après, vous allez vous retrouver complètement déprimé. Votre entourage va ne plus pouvoir vous supporter votre condition. Le docteur va vous signer un bon d'entrée dans la clinique de psychiatrie et vous allez repartir pour un tour. Et je dis ça avec beaucoup de compassion parce que c'est vraiment, peut-être que vous connaissez aussi des personnes qui vivent dans ce cycle de la dépression. Et là, on va voir un peu quels sont les remèdes de Dieu. D'abord, quand on commence à être déprimé, on perd le jugement. Notre jugement perd en justesse. On juge de façon exagérée. On exagère nos problèmes. Si Élie avait été un tant soit peu logique, il se serait dit « Jézabel m'a envoyé un messager pour me dire qu'elle allait me tuer. Si Jézabel voulait vraiment me tuer, elle aurait envoyé un mercenaire qui m'aurait coupé la gorge. » De toute évidence, elle disait des mots, mais elle ne les pensait pas complètement. Elle voulait faire peur à Élie. Elle voulait qu'il s'éloigne de son pays. Elle réussit très bien. Il part pensant qu'il doit sauver sa vie. Il était à Jizréel, au nord d'Israël d'aujourd'hui. C'est vers le mont Carmel, la grande plaine de Megiddo. Armageddon, la colline de Megiddo, où va se passer la dernière bataille de Jésus contre les troupes de l'humanité qui vont se rebeller contre Dieu avant que Dieu ne vienne prendre le pouvoir et établir un règne de 1000 ans. Il était à Jizréel et il va à Beersheba. Il va aussi loin qu'il le peut. Jézréel, c'est au nord, pas très loin de Dan. Et Beersheba, c'est la zone la plus au sud de Juda. On disait d'aller de Dan à Beersheba, ça veut dire parcourir toute la Palestine, tout le pays d'Israël. Il va aussi loin qu'il peut. Il est dit au verset 3 qu'il laisse son jeune serviteur. Son jeune serviteur, la tradition rabbinique parle du fait que c'était en fait le fils de la veuve de Sarepta, mais peu importe. Il a un serviteur qui est avec lui, il le laisse, et puis il va encore dans le désert. De Jizréel à Beersheba, il y a 190 kilomètres. À pied, il faut probablement 40 heures, 2-3 jours. Lui, il y va en courant. C'était un bon coureur. Vous vous souvenez, il avait battu le char d'Achab en descendant du mont Carmel pour se retrouver à Jizréel. Il est complètement déprimé. Il s'assoit sous un genêt, c'était les petits arbres qui donnent un petit peu d'ombre, qui peuvent pousser dans le désert, et il demanda la mort en disant « C'en est trop, maintenant Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Une des raisons de la dépression, c'est souvent des attentes déçues. Élie pensait que cette démonstration de puissance au Mont Carmel allait faciliter les choses et que tout le monde allait venir au Seigneur. La réalité, c'est que nous avons un ennemi, Satan, qui ne lâche pas le morceau si facilement. C'est le combat spirituel dont parle Paul dans Éphésiens 6, pour lequel il nous encourage à mettre l'armure du chrétien, la panoplie. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Il se dit, finalement, mon ministère n'a servi de rien. J'ai pris des risques énormes. Et qu'est-ce qui se produit ? La reine veut me tuer. C'est intéressant de voir comment l'orgueil fait partie de la dépression, comment l'orgueil fait partie de notre vie, même quand on pense qu'il n'y a pas d'orgueil. Prends ma vie, Seigneur, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Quelque part, cette petite phrase nous montre qu'il s'était dit « Je suis quelqu'un de formidable. Quelle puissance à travers moi le Seigneur peut tuer, peut faire consumer en un instant cet holocauste devant tous ces prophètes qui valent rien. » Je suis un grand prophète. À travers moi, le Seigneur va faire de grandes choses. Mais si les attentes sont déçues, si au bout de 6 mois, je n'ai pas implanté une église de 100 personnes, je confie à Dieu, je ne suis pas meilleur que les autres. Verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Et là, il a l'habitude d'être servi sur un plateau du pain, une cruche d'eau. Il mange, il boit, il se recouche. Ça, c'est un des symptômes aussi de la dépression. On ne peut plus dormir la nuit, mais dans la journée, on ne peut rien faire, on dort. Dieu est en train de ressourcer Élie. Et ce passage nous montre que souvent, il y a un aspect physique à la dépression. Si on est épuisé physiquement, si on ne mange plus, si on ne dort plus, les choses ne vont pas en s'améliorant. Et c'est là que des fois des traitements chimiques peuvent nous aider parce que on arrive enfin à se reposer un peu et à reprendre quelques forces physiques. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi ». Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il continue. Il avait fui de son propre chef. Et là, l'ange de l'Éternel On dit souvent que cette expression « l'ange de l'Éternel » peut désigner une apparition pré-incarnation de Jésus. Avant que Jésus ne s'incarne à Bethléem, ne vienne prendre un costume d'homme, il a apparemment des fois où il apparaît aux hommes, probablement comme un homme, mais ça peut être ni plus ni moins que Jésus lui-même qui vient le toucher et lui dit « Fortifie-toi ». Il est ressourcé par Dieu et on voit donc l'importance, si on se bat contre la dépression, à aller vers Dieu. Prendre du temps avec Dieu. Souvent, lorsque les gens sont déprimés, ils ne veulent plus voir personne et surtout pas venir au culte, pas venir aux études bibliques, pas venir aux soirées de louanges, alors que c'est essentiel de se tourner vers le Seigneur. Dieu est là, nous nous tenons toujours devant lui. Mais Achab, au lieu de fixer, plutôt, pardon, Élie, au lieu de tourner ses yeux, de fixer ses yeux sur le Seigneur, il les baisse vers Jézabel, qui lui fait peur. Et il faut que Dieu vienne l'interpeller, lui dire « Je suis là, n'aie pas peur, lève-toi, mange. » Et à ce moment-là, on a l'impression que Dieu l'envoie au mont Sinaï. On va lire à partir du verset 9. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Et voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. Que fais-tu ici, Élie ? On sait que le Seigneur sait de quoi il s'agit. On sait qu'il connaît l'histoire intime, il voit ce que Élie ressent. Mais il l'interpelle et dit, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Le Seigneur veut le faire réfléchir. C'est une question qui est posée pour causer une réflexion. Et je suis sûr que parmi nous, il y en a à qui le Seigneur est en train de demander « Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Et chacun peut réfléchir à sa propre situation et se dire « Oui, qu'est-ce que je fais en ce moment ? Je fais des choses que je ne devrais pas faire. J'ai des préoccupations que je ne devrais pas avoir. Je suis en un endroit où je ne devrais pas être. Qu'est-ce que tu fais, Élie ?» Et typiquement, Élie, en homme comme nous, ne répond pas à la question. Il donne des excuses. Il a un petit moment de compassion de lui-même. Il s'aime beaucoup, là. Il explique pourquoi il agit comme ça. Verset 10. « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, Dieu. J'ai déployé mon zèle. » C'est une belle expression. Quelle est la dernière fois où vous avez déployé votre zèle ? Pas besoin d'être en tuant 850 prophètes, ça peut être en venant servir les enfants à l'église, en venant en réunion. Et si les choses ne vont pas comme vous le voulez, comme vous l'attendez, si vos attentes sont déçues, vous allez dire au Seigneur, « Regarde tout ce que je fais pour toi. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Il parle à Dieu qui l'interpelle à la troisième personne. Il est peut-être gêné de dire face à Dieu, regarde ce que tu m'as fait. Il dit, j'ai fait tout ça pour Dieu et voilà le résultat. Les Israélites ont abandonné ton alliance. Le peuple d'Israël du royaume du Nord a complètement brisé l'alliance faite avec toi. Ils ne te respectent plus, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul et ils veulent prendre ma vie. Encore une fois, la logique de la personne découragée, de la personne déprimée, n'est pas une logique saine. À plus forte raison, s'il était vraiment le dernier, le seul, aurait-il des raisons de ne pas baisser les bras? Il devrait continuer jusqu'au bout puisqu'il est le dernier. Nous savons que ce n'est pas vrai. Le Seigneur va lui dire, nous voyons aussi que Abdias, l'intendant du roi Achab, avait caché une centaine de prophètes de Yahweh, du vrai Dieu, du Dieu vivant d'Israël. Mais on aime bien penser qu'on est tout seul. Il y a cette phase d'introspection où on se dit, personne ne m'aime, personne ne sait ce que je vis, je suis tout seul et on reste tout seul. On parle surtout à personne, on s'isole. L'isolation est aussi une des raisons de la dépression. On exagère nos problèmes, on se lève à une introspection malsaine et on s'isole complètement des autres. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis tout seul, et en plus on veut me tuer. Est-ce que vous êtes senti là par moment dans votre vie? Verset 11, un passage très connu, très intéressant, dont on a parlé pendant la louange. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Oh, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie, verset 14, répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » Il répète sa petite histoire, et c'est souvent notre cas, lorsqu'on va pas bien, on s'invente des excuses, on se trouve des excuses qu'on répète à qui veut les entendre. L'Éternel, verset 15, lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie, tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. » Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Dieu interpelle Élie. Élie était un personnage haut en couleur. Il avait du style. Il avait invoqué le feu de Dieu, le feu de Dieu était tombé. Il voulait voir le Seigneur agir avec puissance et violence. Aujourd'hui, on dirait qu'il était extra-charismatique. Il fallait que ça bouge. Oh, et là, le Seigneur était à l'œuvre. Et là, ce passage clé pour nous libérer de toute idée préconçue de la façon dont Dieu doit agir. Alors Dieu peut agir dans le bruit, dans la puissance, on l'a vu, mais ce n'est pas sa seule façon d'agir. Et ce n'est souvent pas la façon la plus puissante dont il agit. Et ça, c'est très important à comprendre. Nous aimons le spectaculaire, nous aimons le bruyant, nous sommes des gens attirés par le spectacle, mais souvent, ce n'est pas la façon dont Dieu veut agir. Dieu, lui, le fait venir et lui montre des choses violentes, des choses puissantes. D'abord, un grand vent violent qui déchire les montagnes, qui brise les rochers. Une tempête Xynthia. Waouh, la puissance de Dieu, formidable. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Échelle 10 de Richter. Je ne sais pas si ça existe. 9, malheureusement, ça, on l'a vu, ça existe. Un tremblement de terre terrible. Et puis le feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, l'Éternel n'était pas dans le feu. On peut prendre ce verset et l'appliquer à ce qui se passe aujourd'hui au Japon. Dans le sens où les assurances aux États-Unis parlent des actes de Dieu pour parler de ces catastrophes naturelles. Vous entendez dire autour de vous, si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'il permet le tremblement de terre au Japon? Pourquoi est-ce qu'il cause un tremblement de terre au Japon? Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Dieu a remporté la victoire sur Satan à la croix, mais Satan reste le prince de ce monde. Il va falloir que Dieu revienne en la personne de Jésus établir un royaume de 1000 ans. Il va le libérer encore à la fin de la période de 1000 ans pour montrer que ce ne sont pas des circonstances parfaites qui créent la réponse de l'homme vers Dieu. C'est l'âme de chaque personne. Chaque personne doit prendre une décision pas basée sur l'environnement, sur ce que disent les autres, mais seul à seul avec Dieu. Le tremblement de terre, aussi bien que la tempête qui s'était déclenchée lorsque Jésus allait vers Décapolis, vers les territoires païens avec les disciples, Jésus lui avait calmé la tempête. Jésus permet ces choses parce que c'est le temps de sa patience. Il pourrait venir, si on dit « Oh non, on n'en peut plus, c'est impossible », il dit « Bon, ben je reviens ». Et tous ceux qui ne le connaissent pas encore iront pour l'éternité loin de lui, en enfer, un lieu physique, un lieu réel. Dieu n'est pas dans le nuage nucléaire radioactif. Je crois qu'on est d'accord pour reconnaître la folie de l'homme qui prétend pouvoir, indépendamment de Dieu, comprendre les mystères de la création et jouer avec eux. L'homme est un apprenti sorcier qui se croit puissant et tous ces étapes de sécurité, on voit qu'elles tombent comme des châteaux de cartes. Peut-être que Dieu laisse ces choses arriver pour ramener l'homme à l'humilité, mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, Dieu n'est pas dans le feu nucléaire. L'Éternel était, après le feu, un son doux et subtil. Dieu nous parle le plus souvent dans le silence de nos cœurs, dans un bruit silencieux. Encore faut-il qu'on n'ait pas trop de décibels dans les oreilles, avec nos iPods, nos iPads, nos iPhones, nos MP3, nos jeux, nos préoccupations, nos télés, nos nouvelles, nos journaux, nos agendas. Est-ce que nous prenons le temps d'être seuls devant Dieu ? C'est aujourd'hui le printemps, tout à l'heure on chantait, et je pensais que tous on devait trouver que c'était un peu anachronique aujourd'hui de dire qu'on se promène dans les bois, dans la forêt profonde, quand on erre et qu'on entend les oiseaux du ciel, quand sur les monts la source avec son nom livre à la brise un chant doux et léger. Ça nous paraît être un autre monde. Et pourtant, rien ne nous empêche de faire de cela une réalité quotidienne. Nous vivons dans une très belle région. Rien ne vous empêche d'aller vous promener sur la plage. Vous entendrez un peu le trafic sur la prom, mais vous pouvez vous rapprocher de Dieu. La nature, souvent, nous aide à nous rapprocher de Dieu et à pouvoir entendre ce qu'il nous dit. Faites des retraites. On n'a pas besoin d'aller tous ensemble en retraite, c'est formidable. On en prévoit une au mois d'octobre. Mais prenez des moments. Et je me parle à moi-même. Dieu peut nous parler dans un son doux et subtil. Dieu lui repose la question, qu'est-ce que tu fabriques ? La première réaction d'Élie, c'est de recommencer avec son histoire. L'Éternel lui dit, va bosser un peu. Un des meilleurs remèdes à la dépression, c'est de s'activer, de se bouger, même si on n'a pas envie. Et c'est là que on voit les méfaits d'un système social qui encourage les gens à ne pas travailler, mais à toucher des revenus d'assistance. L'assistance, c'est pour assister quand on a besoin. Mais je vais être ferme. Si vous pensez que vous pouvez vivre en bénéficiant d'assistance à longueur de vie, vous n'êtes pas un bon chrétien, vous n'êtes pas une personne morale, vous êtes un malade. Je veux être très, très clair et très ferme. On vit dans un monde où on vous dit si vous allez travailler, maintenant vous allez toucher moins que si vous restez au chômage. Ah ben je reste au chômage. Vous perdez la structure de votre vie, le sentiment d'être utile à la société, vous allez vous perdre des heures et des heures, vous allez devenir de plus en plus malade, vous allez regarder la télé à longueur de journée, vous n'allez pas être productif. Dieu, le travail a été créé avant la chute de l'homme. Le travail n'est pas une punition, le travail est une chose merveilleuse où nous pouvons exercer les dons que Dieu nous a donnés. Ne vous laissez pas enfermer dans le chômage. Ne vous laissez pas enfermer dans le RSA, le RSI, le pout-pout machin. Il va y avoir encore des tucs et des acronymes à longueur de République française. Prenez-vous en main. Bossez. Arrêtez de glander. Ce n'est pas un discours politique, c'est un discours biblique. Dieu dit, va travailler, va aller, va donner l'onction à Jéhu, va, comme roi d'Israël, tu vas donner l'onction à Élisée, tu vas, bouge-toi. Encore une fois, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes, mettez tous vos efforts, faites de ça un boulot à temps plein. Ne dites pas, j'attends, mais il n'y a rien. Il y a du boulot autour de vous. Si vous n'en trouvez pas, créez-en. Trouvez un besoin et répondez-y. Soyez créatifs, entrepreneurs. Dieu, qu'est-ce qu'il fait là ? Il a ressourcé son prophète. Il l'a repris. En lui disant, Il faut que tu ailles bosser, mon grand. Et là, il va le remplacer. Il appelle déjà son successeur, Élisée. Dieu est, est salut, c'est ce que veut dire son nom. Et il commence à le mettre en place. Il va être appelé et il va accomplir le reste de la prophétie que Dieu lui donne à Élie. Verset 18, « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. » Il lui dit, « T'es pas tout seul, arrête de rêver, mon grand. Tu aimerais bien être le seul, l'unique. Nous-mêmes, on aime bien en France dire, on n'est pas nombreux les chrétiens. On est nombreux si on se met tous ensemble et si on prie pour la France, si on travaille pour le Seigneur, si on annonce l'Évangile, le Seigneur peut changer les choses en France. » Verset 19, Élie, c'est là qu'il remplace son prophète. Parti de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui, en signe d'adoubement, de passation de pouvoir. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Je vais embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ça, c'est le début de la vie du prophète Élisée. C'est quelqu'un de riche qui avait des moyens puisqu'il avait 12 paires de bœufs, 12 attelages. Avoir un attelage, c'était déjà faire partie des gens qui avaient des moyens. Il demande à Élie d'aller embrasser son père et sa mère. Ça nous rappelle les paroles de Jésus qui disait que celui qui ne suivait pas Jésus directement mais qui retourne en arrière n'était pas digne de le suivre. Là, Élie tolère cet acte de filiation, d'amour filial. Et on voit que verset 21... Élisée, lui, s'engage à suivre le Seigneur, à le servir. La définition de l'engagement, c'est de supprimer les moyens de retourner en arrière. Il brûle ses vaisseaux, il brûle ses attelages, il brûle ses bœufs, il ne se donne pas la possibilité de voir si le ministère va lui plaire et s'il va pouvoir peut-être revenir. Il s'engage, touché par Dieu, par la prière d'Élie, il s'engage. Le mariage est un engagement. Le divorce est une porte de sortie. Si vous commencez le mariage en pensant que le divorce est là, vous n'allez pas tenir l'engagement. C'était la question d'Aurélien à Pascal Bruckner l'autre soir, qui nous a répondu qu'en fait, pour qu'un mariage dure, un bon mariage, c'était une névrose commune qui durait. Puissions-nous tous être bien névrosés dans ce domaine ? Rester fidèle à une femme pour la vie. La dépression, attention après les moments de bonheur, les moments de joie, les succès, les victoires. Quelqu'un me disait, c'est bien beau ça, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de victoire ? Vous avez des victoires en Dieu. Dieu vous aime, Dieu a un plan pour votre vie, mais il veut surtout que vous ne vous isoliez pas. Lorsqu'il vous demande « qu'est-ce que tu fais ?», de lui répondre honnêtement. Il l'a fait finalement, il a dit « ils veulent me prendre ma vie ». Il aurait pu dire tout de suite « Seigneur, j'ai peur ». Soyons directs et honnêtes avec le Seigneur lorsqu'il nous interpelle. Et puis, encore une fois, le remède à la dépression, c'est de trouver une activité. En France, c'est les produits chimiques pour la dépression. Je préfère de beaucoup ce que j'ai vu au Canada, par exemple, où les gens déprimés, on les met sur un ranch. On les fait lever à 6 heures du matin, comme ça ils vont dormir la nuit. On leur donne du travail, on leur donne à manger. On leur parle de la Bible, on leur parle de l'amour de Dieu. Ces personnes sont vraiment guéries. Dieu nous donne dans cet épisode de la vie d'Élie quelque chose dont nos psychologues feraient bien de s'inspirer. Nos psychiatres, nos docteurs, nos neurologues. Élie était déprimé, il voulait mourir. Dieu lui dit, non, j'ai des plans pour toi. Si vous êtes dans cet état de dépression, ne vous laissez pas enfermer dans le mensonge de l'ennemi qui vous dit que vous êtes tout seul, que personne ne vous aime, qu'il n'y a rien à faire. Parlez d'abord au Seigneur. Venez parler aux autres. Fréquentez des chrétiens. Partagez vos inquiétudes. Tout ça, ça fait partie de notre humanité. Nous vivons dans un monde, on ne sait pas ce que le lendemain amène. Mais Dieu est là. Dieu est là pour chacun de nous. Il veut nous donner l'espoir. Pas parce que c'est la méthode Coué, on dit que tout ira mieux demain. C'est parce qu'avec lui, tout va mieux. Avec lui, nous trouvons un sens à notre vie, nous trouvons notre salut. Et ne laissons pas nos attentes déçues nous conduire à la dépression. Revoyons nos attentes et laissons le Seigneur nous guider. Amen.